matin, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h40. Avez-vous reconnu Yves Tréhard, l'hymne allemand?
Eh oui.
Voilà, Rechtsfreiheit, le droit à la liberté. On parle de l'Allemagne ce matin dans le Zoom Info. Les Allemands renouvellent dimanche leur Bundestag, le Parlement fédéral en Allemagne. C'est un moment démocratique important parce que d'abord, il y a une page qui se tourne. Outre-Rhin, Angela Merkel passe la main après 16 ans à la tête du pays. Mais alors, passer la main à qui? Le jeu est très ouvert, vous allez voir ça. Quelles conséquences ces élections aussi auront-elles pour la France, pour l'Europe? Yves Tréhard donc est avec nous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Hélène Kohl. Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous, guten Morgen.
Guten Morgen également. Alors, je commence avec vous Hélène, on est à J-2. Il y avait hier soir à la télévision, on ne retransmettait pas le Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Hein. Il y avait des élections à préparer. Un débat à 7 hier entre les dirigeants des 7 grands partis. Ce dernier débat à 3 jours du scrutin. Donc, comment ça s'est déroulé Hélène? Racontez-nous.
Eh bien, c'était la démocratie allemande dans toute sa puissance. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parmi ces 7 partis, il s'agissait en fait des partis qui ont la possibilité de rentrer au Bundestag, d'avoir des députés, puisqu'il faut avoir au moins 5% au niveau fédéral. Donc, parmi tous ces 7 partis, certains vont être contraints de gouverner ensemble, contraints de discuter ensemble, dès dimanche soir d'ailleurs, hein, vraisemblablement, puisqu'on est dans une situation inédite. Pour avoir une majorité, très vraisemblablement, il faudra une alliance de 3 partis, ça s'est jamais vu en Allemagne, ce qui veut dire qu'il faut élargir son champ de vision et élargir ses possibilités de majorité. Et donc hier soir, on a eu finalement une discussion assez poussée dans le détail, sur les questions de logement par exemple, sur les questions d'imposition de retraite, mais on s'observe également, on l'a bien senti. C'est intéressant de voir que, alors qu'il y avait des représentants de l'extrême droite, des représentants de l'extrême gauche, des partis un peu moins, je dirais, polis dans le discours politique allemand, c'est resté tout à fait convenable entre démocrates. Et petite anecdote, petit clin d'œil quand même, le mot immigration a été prononcé qu'une seule fois, le mot islam absolument jamais dans cette discussion. Donc c'est vous dire un petit peu la différence de tonalité entre la France et l'Allemagne en ce moment.
Vous entendez Yves Tréhard se marrer, effectivement. Non mais là on mesure effectivement la différence du débat politique entre la France et l'Allemagne, où là-bas on parle loyer, on parle transition énergétique, on parle très peu d'Europe, et pas du tout des sujets qui en revanche chez nous passionne le débat politique, c'est-à-dire l'immigration, l'islam, etc.
Oui, c'est effectivement, ce sont deux cultures politiques complètement différentes. Nous, on a un rapport à la politique qui est un rapport passionné, qui est un rapport extrêmement fort, alors que en Allemagne, c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs,
on choisit le meilleur gestionnaire, c'est ça.
On arrive à des conclusions qui sont différentes. Regardez, on est en Allemagne dans la culture du consensus. C'est ce que votre correspondante vient de nous dire. C'est que on sait déjà à l'avance que le gouvernement à venir sera vraisemblablement un gouvernement de coalition.
Oui.
Et on sort d'un gouvernement de coalition entre ce qui est la social-démocratie et ce qui est un parti de droite qui est la CDU-CSU en Allemagne. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à imaginer dans notre pays, même si on a un président de la République qui revendique d'être et de gauche et de droite. Donc ce sont deux façons de faire de la politique, deux façons d'envisager le dialogue à la fois politique et le dialogue social complètement différents.
Voilà, je donne le rapport de force, le SPD, c'est-à-dire le parti emmené par Olaf Scholz, dont on parle beaucoup, 25% d'intention de vote, selon un sondage paru, je crois c'était mercredi. CDU-CSU, donc le parti d'Angela Merkel, remonte, est à 23%. Et puis vous avez deux puissances en rôle d'arbitre, si je puis dire. Les Grünen, les fameux verts d'Annalena Baerbock, sont à 15%. Et ensuite les libéraux, le FDP, lui est à 12%. Hélène, Hélène Kohl, la question c'est la durée de cette séquence électorale allemande, parce qu'effectivement il y a le scrutin ce dimanche, mais la constitution de la coalition, on se rappelle qu'en 2017 ça avait pris 5 mois, et pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passe? Berlin ne répond plus. Et je rappelle que la France prend la présidence de l'Union européenne en janvier, mais ça pourrait finalement faire un flop.
On va voir, Angela Merkel est encore là. Et Angela Merkel a le sens du devoir chevillé au corps. Une fois, on lui avait demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez que les livres d'histoire retiennent de vous ?» Et elle avait eu cette petite phrase « J'aimerais qu'on pense de moi » en disant « Elle n'a pas ménagé sa peine ». Donc Angela Merkel est encore là, et je pense que le gouvernement est là aussi. Et il y a ce sens de la responsabilité, ce sens du devoir qui va rester. Je pense honnêtement que ça va aller un petit peu plus vite que la dernière fois.
Ah bon ?
Je sais que beaucoup de gens ici en Allemagne me disent « Mais non, pas du tout, ça va être extrêmement compliqué, trois partis, c'est difficile. » Mais l'Allemagne a réalisé lors de cette campagne électorale qu'elle avait peut-être un petit peu dormi pendant ces 16 années sous Merkel, très confortable, avec de la croissance. Il y a d'énormes défis à relever. On a perdu du temps sur la transition numérique, on a perdu du temps sur la transition climatique. Il y a le défi des retraites dont on a parlé quand même beaucoup dans cette campagne. Et il va falloir assez vite avoir une équipe qui est efficace. Donc assez vite, ça veut dire sans doute, quand même, ça va prendre quelques mois, effectivement, mais je ne vais pas parier sur un gouvernement seulement en mars comme la dernière fois. Je pense qu'il y aura peut-être une volonté de créer une équipe d'experts, une équipe peut-être de compromis, effectivement, mais au-delà du compromis, de dire vraiment il y a un défi historique, notamment la question du climat, qui est la première préoccupation des Allemands dans cette campagne. Et donc, il faut y aller, même si ça veut dire renier quelques-uns de nos principes de base. On parle beaucoup de cette possibilité d'une coalition menée par les sociaux-démocrates, donc Olaf Scholz, qui est un centriste de gauche. Hein. Il ne fait pas partie de la ligne gauchiste du SPD, loin de là.
Oui, c'est la ligne Schröder, pour faire simple. Hein.
C'est très proche, je dirais, d'une position centriste, presque à la Macron, hein, d'ailleurs. Hein. Et dans ce gouvernement, il y aurait les Verts, a priori incontournables, et puis les libéraux, pour justement apporter une touche sur l'économie et rassurer un petit peu les milieux industriels sur la transition climatique. C'est ce qu'on appelle la coalition du feu tricolore, qui semble une des options les plus probables après ces élections. Mais encore une fois, on va commencer à discuter la semaine prochaine, et ensuite il faudra négocier ligne après ligne un traité de coalition, c'est-à-dire les partis s'engagent par écrit à respecter un certain nombre de positions et à mener un certain nombre de réformes. Donc c'est très 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 précis. Et c'est pour ça que, par exemple, on se retrouve avec parfois des positions contradictoires avec ce qu'on a avancé dans la campagne, mais c'est l'art du compromis. Et puis, juste pour rebondir, c'est quand même assez passionné. Même si on est sur ce consensus et cette discussion, il y a quand même, parce qu'il y a un suspense absolument inédit, et là, je peux vous dire qu'à deux jours des élections, l'Allemagne est quand même pris au jeu. Hein.
Alors, on fera le bilan, justement, des années Merkel dans un instant. On verra aussi le regard que la France, que l'Élysée porte sur ce scrutin allemand, ce qu'il en attend. Et puis, on se posera cette question qui était soulevée dans la presse cette semaine par Dominique Moisy. Vous savez, je le cite souvent parce que je trouve qu'il a des vues souvent assez pénétrantes. Il se dit, on a eu peut-être trop d'Allemagne en Europe ces 30-40 dernières années. S'il n'y a pas le risque de trop peu d'Allemagne désormais, avec peut-être un gouvernement assez inexpérimenté, exception faite d'Olaf Scholz, c'est effectivement si c'est son parti qui arrive en tête ce dimanche. À tout de suite.
Europe 1. Pour ses 60 ans, le groupe Matmut formalise sa raison d'être, fruit d'un travail collectif mené à l'occasion d'une grande consultation auprès de ses sociétaires, délégués et collaborateurs. Découvrez-en plus dans quelques instants.
Alors, cet après-midi ?
Tranquille. Shopping dans une super boutique déco, j'ai trouvé du café bio, j'ai pris des bouquins chez le libraire du centre, récupéré les enfants à l'école, et puis pour ce soir, j'ai un Colombo au citron vert.
Non mais en vrai, t'as fait quoi ?
Tout sur maville-monshopping.fr.
Maville-monshopping.fr, c'est le site de commerce local et citoyen. Achetez en ligne chez vos commerçants locaux et récupérez vos achats en click and collect ou en livraison à domicile. Maville-monshopping.fr, reconnectez-vous à vos commerçants. Conditions générales sur maville-monshopping.fr, une entreprise du groupe La Poste.
Je m'appelle Margot Keller et je suis designer. Pour une PME comme la mienne, se développer à l'export, ce n'est pas évident. Trouver de nouveaux marchés, participer à des salons, il faut avoir la connaissance et la capacité financière. Avec l'assurance prospection accompagnement, je n'ai plus à avancer ces frais. Mes créations vont être distribuées aux États-Unis. Je suis ravie.
Relancez-vous plus vite et plus fort avec l'export. Entrepreneurs, comme Margot, profitez de l'assurance prospection accompagnement. Soyez accompagné dans vos démarches à l'international et sécurisez vos dépenses de prospection. Toutes les mesures Export de France Relance et les soutiens de votre région sont sur teamfrance-export.fr.
Quand Marc a pris Connect Pro Fibre d'Orange, c'était
pour bosser de n'importe où grâce à la visio.
Pour Anna, c'était pour former 15 collaborateurs en même temps,
sans avoir à se déplacer,
grâce au partage d'écran.
C'est fou le gain de temps, hein.
Et d'argent.
Connect Pro Fibre d'Orange, c'est jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable.
Orange.
Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Chez Action, nous avons toujours les prix les plus
bas et encore plus maintenant. Grain de café Palazzo 500 grammes certifié UTZ pour 3,49€.
Quelle affaire!
Mais aussi la peinture haute brillance en aérosol Spectrum à 1,76€ les 400 ml.
Ça, c'est pas cher!
Crème de douche Nivea Keren Diamond pour 2,59€.
Je vais tout de suite chez Action.
Rendez-vous sur Action.com ou l'un de nos 608 magasins pour encore plus de produits à prix imbattable. Action, petit prix, grand sourire.
Il y a plus de 20 ans, les centres Leclerc ont lancé l'événement Nettoyons la nature. 13 000 tonnes de déchets ont déjà été ramassées. En ce moment, partout en France, plus de 500 000 bénévoles se mobilisent dans le nettoyage de sites urbains et naturels. Chaque petit geste compte. Découvrez toutes les actions de Leclerc pour l'environnement sur www.mouvement.leclerc.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Le rappel de l'essentiel de l'actualité. Alban Le Prince, le journal permanent.
Un président obsédé, l'un ou l'autre, je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France, a estimé Éric Woerth ce matin sur Europe 1. Le député Les Républicains de l'Oise réagissait au débat télévisé organisé hier soir entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Jean Castex dans l'Yonne aujourd'hui pour faire des annonces au 3e comité interministériel aux ruralités. Objectif, protéger et relancer les zones rurales. La SNCF va lancer une nouvelle offre Ouigo Vitesse classique au printemps prochain sur les axes Paris-Lyon et Paris-Nantes. Des anciennes rames corail rafraîchies et repeintes en rose avec des billets moins chers mais des trajets plus longs. L'éruption du Cumbre Vieja, le volcan situé sur l'île espagnole de La Palma, pourrait durer entre 24 et 80 jours, juge ce matin l'Institut volcanologique des Canaries.
Europe Matin.
8h51, le Zoom Info consacré à l'Allemagne, élection fédérale ce dimanche. L'occasion de dresser également le bilan d'Angela Merkel. Que restera-t-il de Mouti, Yves Tréhard? Alors je vais vite, mais Adenauer, c'était l'arrimage de l'Allemagne à l'Ouest après la guerre. Ouais. Kohl, la réunification, l'entrée dans l'euro. Schröder, les mesures de compétitivité. Et Angela Merkel, 16 ans au pouvoir tout de même. Qu'est-ce qu'il en reste, selon vous?
Dans la liste, vous avez oublié évidemment Helmut Schmidt, qui n'était pas
vous avez
plus
raison.
Complètement, je dirais, anodin. Alors, le reproche qui est fait à Madame Merkel, c'est de finalement avoir géré l'héritage de Gerhard Schröder, qui avait réformé l'Allemagne. Vous savez, au tournant des années 2000, on disait que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe, alors que elle avait eu une fin de XXe siècle plutôt assez florissante, l'Allemagne. Donc, il y avait cette accusation et contre Madame Merkel en disant bon, c'est pas elle qui a fait les réformes, elle a hérité, je dirais, de Schröder, qui était lui un social-démocrate alors qu'elle, elle était conservateur, et elle a finalement elle a géré le pays et puis elle a fait quelques embardées. La première, dont on n'a pas suffisamment à mon avis relevé l'importance, c'est l'abandon du nucléaire qui a quand même gravement je dirais entaché l'avenir de l'Allemagne et qui le complique bougrement, parce que c'est le retour au charbon, c'est le retour de la pollution, même si les énergies renouvelables sont à l'ordre du jour en Allemagne.
C'est 50% de la consommation énergétique,
exactement.
Enfin, la production énergétique.
Et d'une certaine façon, c'est une partie de la pollution européenne aussi, mais on n'a pas dit assez, y compris sur la France. Et puis, la deuxième embardée qui a surpris tout le monde, c'est évidemment la crise migratoire de 2015, quand Madame Merkel accepte d'accueillir tous les
1 million de migrants,
tous les migrants, oui, qui viennent de Syrie et d'Irak.
Dont 32% finalement s'avèrent être de vrais Syriens, si je puis dire.
Et alors ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que elle a fait ces deux embardés-là, plus un caractère bien trempé et une rigueur budgétaire qui a été plutôt assez mal vécu ailleurs en Europe et notamment dans le sud de l'Europe, dans ce qu'on appelle les pays du Club Med. Et ce qui fait que elle ne s'est pas rendue très sympathique à l'extérieur, Madame Merkel, alors que dans son pays, elle est extrêmement, elle a été très populaire, même si elle a connu une baisse de popularité justement quand il y a eu la crise migratoire. Mais chez elle, ils vont verser une larme quand elle va quitter la chancellerie. Elle représente un pan de l'histoire allemande très important, alors que on peut pas dire que son bilan sur les initiatives, en tous les cas, ait été extraordinaire.
Alors je rajoute quand même un enrichissement très fort de la population allemande. Le PIB par habitant en Allemagne, il est passé de 45 000 à 55 000 dollars en l'espace de 15 ans. Trois fois plus, une augmentation trois fois supérieure à celle de la France, quand même. Ça, c'est important. Mais, alors, on parlait des infrastructures. Moi, je suis sidéré de voir que, par exemple, dans les campagnes allemandes, vous allez me dire, Hélène Kohl, si ce chiffre m'a tellement stupéfié que j'ai eu du mal à le croire. À peine un tiers des Allemands qui vivent dans les zones rurales ont accès à Internet. Je ne parle pas de la fibre, je ne parle pas du haut débit, mais je parle simplement Internet, Hélène Cole.
Alors, je ne sais pas si c'est exactement un tiers. Il y a eu quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés ces dernières années à la faveur de l'épidémie d'ailleurs, parce qu'on a réalisé que ces gens-là étaient complètement coupés du monde. C'est vrai que l'Allemagne est avant-dernière du classement européen. Seule l'Albanie fait moins bien. Donc, effectivement, c'est un très très gros problème.
Ah oui, ça la fout mal pour le premier PIB européen quand même, hein.
Effectivement, c'est très compliqué et c'est aussi pour cela notamment que le Parti libéral, qui est un petit parti, bon, qui a eu ses grandes heures hein, dans les années 60-70 au gouvernement pendant 47 années quand même de l'histoire de la République fédérale allemande, c'est pour ça que ce petit parti s'impose clairement dans le débat là, dans la dernière ligne droite et sera vraisemblablement un des partenaires au moins lors des discussions de négociation. On verra ce que ça donne à la fin. Il y a effectivement des grands défis à relever. On va voir que fera la personne qui va s'installer à la chancellerie, quel sera le gouvernement. En fait, c'est très 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 compliqué d'ores et déjà de donner des grandes lignes parce que tout dépendra de ce qui va se passer après les élections. Hein. Ces élections de dimanche, c'est seulement la première mi-temps de ce grand moment démocratique en Allemagne.
Yves Tréhard.
Oui, moi je crois qu'il faut, quand on regarde l'Allemagne depuis la France notamment, il faut jamais perdre de vue qu'il y a 30 ans, l'Allemagne était divisée. Et que, moi j'ai connu l'Allemagne de l'Est quand elle était derrière le rideau de fer, faut voir la différence de développement qu'il y avait entre ces deux Allemagnes. Mmh. Et de savoir que ce pays a réussi à, je dirais, se réunifier.
Oui. Et vous avez des villes à l'Est qui sont plus riches
oui.
À Leipzig, par exemple.
Bien sûr.
Un succès incroyable.
C'est incroyable.
Avec un niveau de vie sans doute supérieur.
Ouais. Un rattrapage qui est extraordinaire, mais vous avez aussi des campagnes à l'Est qui étaient extrêmement retardées. Et qui, alors, vous voyez, c'est un effort qu'ils ont réussi à réaliser et c'est une prouesse en 30 ans de voir que ce pays qui était divisé à tout point de vue, eh bien, réussit à se réunifier. Et d'ailleurs, il faut le souligner, Mme Merkel est une ancienne ressortissante de l'Allemagne de l'Est.
Hélène Cole, j'ai une question pour vous. Je citais Dominique Moisy qui disait « Est-ce que le risque pour l'Europe, c'est pas finalement qu'il y ait trop peu d'Allemagne ?» À l'heure où élargissons le spectre, si je puis dire, les États-Unis en retrait stratégique sur son flanc ouest, c'est-à-dire le nôtre, la Chine qui accapare l'attention américaine, on voit que l'Europe est quantité négligeable aujourd'hui à Washington, la France, cette affaire de sous-marin relance le débat sur l'autonomie stratégique européenne. Je crois qu'on n'a pratiquement pas parlé d'Europe dans cette campagne législative en Allemagne.
Effectivement, c'était vraiment une des grandes absentes, d'une façon générale, la politique étrangère, la politique internationale. Cela dit, hier, au débat, il y a eu une séance de rattrapage, hein, on a quand même parlé d'Europe. C'était intéressant de voir que les trois personnes qui sont en mesure potentiellement d'accéder à la chancellerie, que ce soit Olaf Scholz pour le SPD, Armin Laschet pour la CDU ou Annalena Baerbock, même si là elle est quand même un petit peu cornerisée sur la dernière ligne droite pour les Verts. Ces trois personnes partagent à peu près la même vision de l'Europe. Il n'y a pas de grande différence, ce sont des pro-européens, ce sont des gens qui ont envie de faire avancer l'Europe, mais il leur manque effectivement une vision globale. Et ça aussi c'est l'héritage de Merkel, parce que Merkel elle a en fait plutôt géré les crises de l'Europe, mais on n'a jamais eu un grand discours sur l'Europe de la part d'Angela Merkel. Oui. On n'a jamais eu de propositions très concrètes. Et quand je regarde les trois programmes politiques, même de tous les partis, hein, au-delà des trois principaux, il manque vraiment des idées très très concrètes. Un truc quand même à noter très important, c'est que ces trois partis veulent donner plus de pouvoir au Parlement européen, oui. Que le Parlement ait un droit d'initiative. Donc ça, c'est pas négligeable à suivre. Et puis, il y a quand même une volonté globale de faire avancer une Europe de la défense. Oui. Mais par exemple, il faudra discuter sous. Et qu'est-ce qu'on fait des règles du pacte de stabilité ? Et ça sera l'un des points qui sera négocié pendant le...
On attendait des Allemands qui parlent d'Europe. On n'en parle jamais, nous aussi, dans nos campagnes électorales.
On en parle rarement et on va le voir, on va le vérifier. Simplement, le poumon politique de l'Europe, c'est plutôt la France, et le poumon économique, c'est plutôt l'Allemagne.
Ouais,
ça risque d'être encore le cas.
Je vous cite une petite phrase de Marion van Rettergem qui vient de signer un rapport pour l'Institut Montaigne sur l'Allemagne. J'ai trouvé que cette phrase en disait tellement. L'Allemagne, c'est le pays où rien n'est rose, mais où tout marche mieux qu'ailleurs.
Hein. Oui, c'est pas faux.
C'est un bon résumé. Merci Hélène Cole d'avoir été avec nous ce matin, la correspondante d'Europe 1 à Berlin, et merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.